Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Julia Pagé et Rémi Villemur sont les deux Hun. Les deux Run avec moi aujourd'hui. Bonjour à vous deux.
Salut.
Je dis les jeunes parce qu'on a des sujets de jeunes aujourd'hui, mais qui peuvent interpeller tout le monde. Premier qui parle des jeunes qui votent, hein, qui vont voter éventuellement au fédéral. Et si traditionnellement, notre génération ou les générations plus jeunes ont tendance à voter vers la gauche, ben ça pourrait changer. Il y a un sondage qui démontre que 37% des 18 à 29 ans pourraient vouloir voter conservateur au fédéral aux prochaines élections. Est-ce qu'on a le droit, c'est-tu légal ça, d'être jeune et conservateur, Rémi?
Oui, j'ai vérifié ce matin, puis ça l'est toujours.
Okay.
Peut-être que ça pourrait changer, mais on va s'attacher à la possibilité que ça puisse rester. Si on veut comprendre cette réalité-là, à mon avis, il faut vraiment admettre en partant que le montréalocentrisme, ça a une influence insidieuse sur nos esprits. Je m'explique. Quand on habite à Montréal et qu'on sort jamais vraiment de cette ville-là, on a l'impression que c'est impossible que les jeunes puissent voter pour des partis plus conservateurs. Dans notre esprit, les jeunes, comme tu viens de le dire, ça vote à gauche, ça veut faire table rase sur le passé, ça veut contester les héritages. Mais en fait, c'est un mensonge, ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2018, un peu avant les élections provinciales, il y avait un sondage qui était sorti qui nous avait appris que la majorité des jeunes, donc des gens de la tranche d'âge 18-34, s'apprêtaient à voter CAQ ou libéral. Et là, le Parti libéral, c'était pas le Parti libéral de Dominique Anglade, là, c'était le Parti libéral de Philippe Couillard. À Montréal, pendant ce temps-là, on sentait que QS avait le vent dans les voiles chez les jeunes. Mais pourtant, le sondage, il nous apprenait que QS était dernier au Québec chez les jeunes de 18-34. C'était même dernier derrière le Parti québécois. Donc, il y a vraiment une différence entre la volonté qu'expriment les jeunes en ville et en région. Puis la réalité est la même en Ontario, en passant en Alberta, aux États-Unis. En fait, elle est, à mon avis, observable à peu près partout dans le monde occidental. Dans les grandes villes, c'est généralement progressiste chez les jeunes, au sens politique du terme, on s'entend. Et dans les régions, c'est plus conservateur. Parce que le conservatisme, c'est pas le mal incarné. C'est une idée du monde, totalement légitime. C'est un différent rapport à l'espace et au temps. Le conservatisme, c'est l'enracinement. Puis le progressisme, c'est une mobilité constante. C'est une idée, tout simplement. Et donc, on peut être jeune et voter conservateur. On peut être jeune pour voter progressiste, tout simplement.
Toi, est-ce que ça te surprend, Julia?
Ouais, moi ça me surprend quand même, puis je ferais une distinction entre le conservatisme point et le conservatisme de Pierre Poilievre, qui pour moi décèle une autre tendance, qui est peut-être une tentative de se raccrocher à quelque chose alors que l'ordre social est en constant changement. Mais je pense quand même que c'est très dur de déceler une tendance en regardant un phénomène relativement récent dans le cas du Canada. On peut se demander que ce serait pas plutôt juste une question de candidat. Ça se pourrait que Poilievre soit particulièrement habile avec les plus jeunes. Au contraire, est-ce que ça pourrait pas plutôt être par insatisfaction des autres partis? Est-ce que la pandémie a eu un rôle à jouer? Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte et ce serait assez présomptueux d'assumer que cette tendance qui est très récente va se maintenir dans le temps, surtout que c'est une tendance contraire à ce qu'on a observé depuis de nombreuses années chez les jeunes et une tendance contraire à ce qui s'observe dans le reste du monde occidental. C'est vrai qu'il y a une plus grande concentration de gens à gauche dans les grands centres, mais en général, aux États-Unis, les jeunes votent en forte majorité pour les démocrates. En France, au premier tour, ça a été même vraiment marqué. Il y a un tiers des 18-24 ans qui ont voté pour Mélenchon, le candidat le plus à gauche. Et donc, c'était même plus que ce à quoi on s'attendait pour les jeunes. Puis au Québec, ben, les derniers sondages placent facilement Québec solidaire sur le haut du podium, toujours pour les 18-24 ans. Donc, on n'est pas à l'abri de revirements de situation étonnants, Mais pour moi, étonnant serait le terme approprié.
Est-ce que la pandémie de COVID-19 a peut-être pu jouer un rôle dans ces données, cette montée, si on veut, de l'attirance vers le conservatisme? On s'entend, là, c'est pas parce que ils ont des politiques drastiquement différentes, mais peut-être que le fait qu'ils soient plus laxes souvent ou plus qu'ils froncent plus les sourcils face aux mesures de confinement, est-ce que ça peut aider leur cause auprès des jeunes, Rémi?
Oui, sans doute. Mais on oublie parfois que le conservatisme, de toute façon, si on sort par exemple des jeunes, aux deux dernières élections fédérales, les conservateurs ont gagné le vote populaire. Donc, de penser que les libéraux ont le vent dans les voiles, que les libéraux sont les plus populaires au Canada, c'est faux. En fait, ils sont avantagés par un système électoral, qui est le mode de scrutin qu'on ne contestera pas ce matin. Mais les conservateurs ont une légitimité qui dépasse un peu le portrait qu'on se fait de leurs résultats ici. Puis, bon, aux dernières élections, les jeunes ont voté pour la CAQ et pour les libéraux en général, il me semble, au Québec. J'ai vu ça passer. Donc, est-ce que parce qu'on apprend là tout récemment que les jeunes sont, disons, projettent de voter pour QS, c'est ce qui va se passer? J'en doute. Je pense pas, en fait, que QS sort vraiment de la ville. Ils ont 3-4 circonscriptions en dehors de la ville. Il y en a 2 qui sont en danger. Donc, ça, c'est une réalité qu'on refuse d'admettre. C'est que les jeunes en région, ils sont plus conservateurs que les jeunes en ville. Et la ville, c'est une minorité en général.
C'est sûr que ça couvre un moins grand territoire en tant que tel. Julia, Rémi, je veux vous entendre sur un autre sujet de jeunes. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un nouveau sondage, une autre étude du Pew Research Center qui a été publiée hier, qui concerne les applications, les réseaux sociaux, les plateformes de divertissement. Et ce qu'on apprend, c'est une tendance qui était déjà observable, mais qui maintenant est prouvée par cette étude-là, c'est que Facebook dégringole auprès des ados. On parle là des 13 à 17 ans qui se rendent sur Facebook. Ça a chuté là en 2015 de 71%, 32% de chute en 2022. Donc c'est presque le tiers des ados américains seulement qui l'utiliseraient. Julia, est-ce que ça te surprend, toi?
Non, il fallait s'y attendre, puis il y a tellement de raisons qui permettent d'expliquer qu'on observe un si grand déclin d'utilisation du côté de Facebook, mais c'est surtout parce que le marché s'est énormément fragmenté. Pardon, les jeunes ont énormément d'options. Ils s'écrivent sur Snapchat, ils vont se divertir sur YouTube, sur TikTok, et Facebook devient un site qui ne perd pas toute son utilité, mais qu'on va utiliser, par exemple, pour organiser des événements, pour vendre des choses sur Marketplace, mais il perd sa fonction de divertissement. Et c'est une très, très lourde perte. Étant moi-même une jeune femme de la génération Z, ben, je suis très familière avec toutes ces plateformes. Et une chose que je peux dire sur TikTok et sur YouTube, c'est que leur force incontestable, c'est qu'ils ont réussi à développer des algorithmes tellement puissants que le contenu auquel on est exposé est parfaitement personnalisé. Et donc, ils ont un très fort pouvoir addictif. Dans ce domaine-là, Facebook est beaucoup moins sophistiqué. Et il y a même une blague qui circule beaucoup voulant que si tu vois une vidéo sur Facebook, ça veut dire qu'elle était sur TikTok il y a 3 semaines. Donc, Facebook a un peu de mal à suivre la parade et ben, c'est ce que les chiffres démontrent.
Rémi, toi, est-ce que tu penses que ça a rapport aussi au fait que ben les parents, les adultes, là, je vais utiliser le terme les parents, ont fini par s'approprier eux aussi Facebook puis c'est devenu moins cool à cause de ça?
Peut-être, j'avais jamais pensé à ça. Par contre, je pense aussi que les jeunes changent. Moi, généralement, quand je vois des nouvelles passer comme ça, là, je suis assez, la chute de Facebook, je suis assez content. Ça me réconcilie avec la modernité parce que moi, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, Facebook est un crime contre l'humanité, littéralement. Mais ça restait quand même le dernier réseau social où on exigeait, relativement des utilisateurs qui soient actifs, participatifs. Il n'y avait pas d'intérêt à être sur Facebook si vous construisiez pas un réseau ou si vous l'alimentiez pas. Puis là, aujourd'hui, je vois que ce genre de réseau-là qui demande une participation d'utilisateurs est en baisse. Et qui monte, c'est TikTok, qui est carrément un truc de zombie, là. C'est une affaire où que vous asseyez devant votre écran, il y a du contenu qui défile et vous vous laissez avaler tout rond jusqu'à l'hypnose. Donc, pour moi, le passage de Facebook à TikTok paraît peut-être stimulant, c'est quelque chose de dramatique parce que on constate que les jeunes sont de plus en plus encaisseurs de contenu. Ils ne créent plus tant que ça du contenu. La plupart des gens sur TikTok, c'est des gens qui regardent, pas des gens qui créent du contenu. Donc, je pense qu'on a remplacé la peste par le choléra, littéralement.
Il y a YouTube aussi, on en parle peu, mais 95% des adolescents américains disent s'en servir. Puis je pense, on n'a pas les chiffres pour les adultes, là, je les ai pas devant moi, mais à peu près tout le monde que je connais au monde utilise YouTube, soit pour visionner des choses, puis là on peut voir à peu près du contenu de n'importe quoi. Là, ça va même dans les streamings en direct. Est-ce que YouTube a sa place dans tout ça? Est-ce que c'est le mal incarné pour toi, Julia?
Non, pas du tout. Je trouve même qu'il y a des choses assez intéressantes dans YouTube parce que je pense qu'on peut dire que ce que YouTube remplace, c'est la télé traditionnelle. Puis la télé traditionnelle, c'est tellement institutionnalisé qu'on était face finalement à des gros producteurs, des gros diffuseurs qui faisaient un peu dans du travail de ce que la masse voudrait voir. Mais YouTube permet énormément de sous-culture. Tout le monde peut y trouver son compte. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Rémi. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, des plateformes comme TikTok et comme YouTube, les gens participent à la création de contenu. Puis finalement, c'est plus les autres qui décident pour nous ce qu'on va écouter. Il y a plusieurs choses. On peut s'informer, on peut se désinformer aussi, disons-le.
Ouais.
Mais pour moi, il y a une grande liberté dans le contenu qui peut être abordé. Ça amène des dangers. Mais aussi, quand même, moi, j'applaudis cette capacité des gens à reprendre le contrôle, finalement, du contenu qu'ils consomment.
Reprendre le contrôle, puis aussi, faut le souligner, hein, TikTok, oui, ça peut nous faire virer zombies à force de vouloir voir du contenu en continu, puis surtout du contenu que nos algorithmes là savent qu'on aime. Mais d'un autre côté aussi, il y a bien des gens qui réussissent à soulever des enjeux, parfois, qu'on voit pas, de faire du militantisme, de l'activisme sur TikTok. Faut pas oublier quand même qu'il y a certains beaux côtés aux réseaux sociaux. C'est un débat assurément qu'on poursuivra ensemble, là, Julia, Rémi, merci beaucoup. Moi, je m'attends à ce que Rémi, d'ici la fin de notre saison, d'ici la fin de l'été, là, ait un compte TikTok et qu'il produise des vidéos. Moi, ça, j'aimerais beaucoup savoir ça. Merci à vous deux.
J'espère que t'as la foi. Bye.